de Paul à Timothée, chapitre 4. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure et exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivra de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ces moments. Tu es là, et tu es celui qui veut atteindre chacun de nos cœurs. Il y a des cœurs que tu connais, qui t'appartiennent, et je prie pour que chacun puisse avoir une parole ce soir, un encouragement. Et puis je prie pour celui qui ne te connaît pas, celui qui est séparé de toi au sens biblique. Et je prie pour que tu te révèles cet après-midi, tu trouves le chemin du cœur, qu'il y ait la révélation de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Nous avons là, dans ce que nous avons lu, les derniers mots écrits par l'apôtre Paul. Cette deuxième lettre à Timothée est considérée comme la dernière. Ça donne une touche encore plus solennelle. Ça donne aussi un reflet à certains mots particuliers ou certaines paroles. Quand il dit « prêche la parole », ça, le fait que ce soit alors qu'il va... qui sent qu'il va mourir, qu'il n'en a plus pour longtemps, et qu'il dise « prêche l'évangile », moi ça m'interpelle toujours. Ça montre combien c'est important d'annoncer l'évangile. Et puis il y a des mots qui font mal, tous m'ont abandonné. Quand on sait ce qu'a fait l'apôtre Paul pour les autres, et que là il devait comparaître dans son jugement, il est arrêté à cause de sa foi, et le jour de son audience... tous les chrétiens étaient absents. Tous ceux qui devaient l'assister pour témoigner en sa faveur. Ça fait mal, hein? C'est étonnant, déroutant. Je voudrais m'arrêter sur cette petite phrase de l'apôtre Paul. Le moment de mon départ approche. Et je voudrais qu'on se pose simplement quelques questions, toutes simples. Et la première question, de quel départ Paul parle-t-il? Bien évidemment, l'apôtre Paul parle de sa mort. Il parle du grand départ, du passage dans l'au-delà, du départ vers l'éternité. Des départs, il y en a. Il y en a de toutes sortes. Il y a le départ de la maison des parents, il y a le départ en vacances, il y a le départ à la retraite, il y en a toutes sortes. Et plus ou moins, on les prépare. Quand on part en vacances, ça se prépare. On ne part pas une heure avant. Je dis ça, mais j'ai le souvenir que quand j'étais jeune, il y avait des amis qui étaient venus et ils me disaient « on part en Espagne 3 semaines ». Et dans la demi-heure qui suivait, j'étais dans la voiture avec eux. Je partais pour 3 semaines en Espagne. Mais bon, ça, c'était une certaine période où on était inconscient, un peu foufou. Voilà. Mais les départs, ça se prépare. Départ en retraite, ça se prépare. Et le départ vers l'éternité, ça se prépare. Et quand je dis que ça se prépare, je ne parle pas de préparer ses obsèques. C'est très bien, des fois, de les préparer pour que les enfants n'en aient pas la charge. Mais ce n'est pas ça, préparer son départ. C'est préparer son départ vers l'éternité, c'est être prêt à comparaître devant le Dieu vivant et vrai, devant celui auquel il y a au point de secret, il connaît tout. Et devant nous, devant lui, seront examinées notre vie, ce qu'on a fait de nos ressources, de notre temps, de notre argent, de nos talents, des questions qu'on a eues, ce qu'on a fait avec notre conscience. Vous voyez tout ça là, ça va comparaître devant Dieu, c'est ça, être prêt. Il y a un texte que l'on connaît, alors c'est dit dans un contexte particulier, mais dans Amos chapitre 4, verset 12, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut être prêt. Un jour ou l'autre, on doit partir. Quand ? Eh bien, c'est la deuxième question. Paul savait-il quand est-ce qu'il allait partir ? Paul ne pouvait pas dire exactement quand est-ce qu'il allait partir. Mais c'est indéniable que dans ce qu'il dit là, il sait que bientôt il va partir. Il pressent. Le moment de mon départ approche. Il parle de sa mort, il la sent de manière imminente. Je ne sais pas combien il y avait de jours à son compte à rebours. Est-ce qu'il y avait 3 chiffres ? S'il y avait 3 chiffres, ça veut dire qu'il y a moins de 3 ans. S'il y en avait 2, ça veut dire qu'il y a moins de 3 mois. On ne sait pas. En tous les cas, je pense qu'il y avait moins de 3 ans. On pense que l'apôtre Paul n'a pas vécu longtemps après cette dernière lettre. Mais on ne peut pas dire exactement combien de temps il a vécu. Mais Paul savait qu'il n'en avait pas pour longtemps. Le moment de son départ approchait. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Dans certains cas, on peut le pressentir. On peut des fois voir la mort arriver. Mais des fois, elle ne prévient pas. Des fois, elle peut faucher. Elle peut faucher dans la jeunesse. Et forcément, ça veut dire qu'il faut être prêt à tout moment. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va décider que je quitte cette terre. Et on ne va pas prendre le risque de ne pas être prêt. J'ai grandi moi aussi dans une famille chrétienne. Et je me suis dit pendant longtemps, de toute façon, hein, s'il y a panique, je crie. On m'avait dit, il faut demander pardon au Seigneur et t'es sauvé. Alors j'avais dit, si je sens qu'il y a la panique, je crierai au Seigneur, je demanderai pardon et je serai sauvé. Sauf qu'un jour, dans la rue à Villeurbanne, je me suis fait renverser par une voiture. J'ai rien vu venir. Et j'ai pas eu le temps de faire ma prière flash, là, qui m'aurait sauvé. Et j'ai compris que ma parade, elle ne servait pas à grand-chose. Elle ne tenait pas. Et au contraire, j'ai entendu une voix qui me disait « Joël, c'est la dernière fois ». Alors là, j'ai eu peur. Et ça a déclenché un mouvement de retour. Dieu m'a fait grâce. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, on peut le pressentir. Mais comme on ne le sait pas, même si Paul le pressentait, l'important, c'est d'être prêt. Paul savait-il comment il allait mourir ? C'est une autre question. Et qui peut savoir comment il va mourir ? Certaines personnes peuvent le savoir. Celui qui est condamné à mort, il sait comment il va mourir. Celui qui est condamné par la médecine parce qu'il y a une maladie incurable et on lui a dit les symptômes, il peut pressentir comment il va mourir. Le criminel qui sème le désastre autour de lui, on se doute comment il va finir. Hein. Mais d'une manière générale, on ne sait pas comment on va mourir. Pourtant, Paul n'était pas gravement malade, mais il pressent, il donne l'impression dans ses paroles de pressentir qu'il va mourir, et même de manière violente. C'est vrai qu'il est en prison à ce moment-là. Il n'est pas condamné à mort. Et au moment où il écrit, il ne donne pas l'impression de vouloir mourir. Il a tout fait pour se défendre. Mais il savait intérieurement qu'il allait mourir violemment. Lui le savait. Et je crois qu'il le savait parce que le Saint-Esprit le préparait. À plusieurs reprises, quand il allait vivre des choses difficiles, le Saint-Esprit l'avertissait. Rappelez-vous dans Acte 21, lorsqu'il revient à Jérusalem, le Saint-Esprit l'avertit qu'il va vivre des moments difficiles. Et là aussi, il savait. Il savait qu'il allait vivre des choses difficiles. Il parle de lui comme une libation. Une libation, ça évoque ces liquides que l'on versait sur les sacrifices, principalement du vin ou de l'huile. Et au sens figuré, ça évoque le sang qui est versé pour la cause de Christ. Et ça veut dire qu'il y a l'idée d'une mort violente. L'apôtre Paul s'attendait à mourir comme certains chrétiens ont pu l'être. Vous savez quel était l'empereur lorsque Paul écrit ça ? Il s'appelle Néron. Alors forcément, on est plutôt dans les dernières années de Néron. Mais on sait ce qu'il avait fait aux chrétiens. Néron a fait des ravages parmi l'église chrétienne. Il a détruit, c'était un fou. Il terminera dans la folie et il se suicidera. Mais il a détruit et l'apôtre Paul qui est en prison, il pense bien qu'en prison, dans une prison romaine, il comprend vite quelle peut être l'issue. Paul savait qu'il allait mourir d'une manière violente. Pierre aussi le savait. Pierre, il dira à un moment donné, dans son épître, je regarde comme un devoir, mais aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Intéressant parce que Pierre parle aussi de son départ. Et il dit, je quitterai cette tente. Il parle de son corps comme une tente, quelque chose de provisoire. Et il sait que, et il dit que le Seigneur lui en a parlé. Alors on pense à cette parole que Jésus a donnée à Pierre à un moment donné, où il lui dira, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te conduira là où tu ne voudras pas aller. Ça semble faire allusion. Et en tout cas, Pierre a compris que ça veut dire que tu auras une mort qui... Il nous a dit qu'il lui a dit par cela, par quelle mort il glorifierait Dieu. Personne ne désire une mort violente. On désire tous une mort paisible, on s'endort dans le fauteuil, on se réveille au ciel. C'est un petit peu tout ce qu'on désire, mais on ne sait pas, on a envie d'être rassasié de jour, c'est un petit peu, on souhaite tout ça, c'est vrai. Mais je voudrais rappeler quand même le plus important. C'est que le plus important, ce n'est pas comment nous mourrons, mais c'est où nous allons quand nous mourrons. Je cite souvent ce texte dans Luc chapitre 13, verset 1er. Un jour, on a rapporté à Jésus des choses qui se sont passées dans la ville de Jérusalem. Des hommes ont été massacrés avec les sacrifices qu'ils étaient en train d'offrir par des Romains. Et dans l'idée des gens, on se disait, si ces gens sont morts de cette manière, au moment où ils offrent des sacrifices, ils ont été mis à mort, c'est que ça devait être des grands pécheurs, des grands criminels, des grands coupables. Et Jésus remet les choses d'équerre. Il dira, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus voulait bien leur montrer que ce n'est pas la manière dont je mors qui est important, c'est où je vais. Et pour ça, pour être sûr d'aller avec le Seigneur, c'est la repentance. C'est de se tourner vers Jésus. Alors justement, je pose cette question maintenant, cette quatrième question. Paul savait-il où il allait partir ? Pour le quand et pour le comment, l'apôtre Paul n'avait que des pressentiments. Mais pour le où, il avait des certitudes. Et il le dit, il exprime sa certitude de recevoir la couronne du Seigneur. Il a cette conviction qu'un jour il sera avec Jésus. Ça, c'est une certitude. Et dans cette épître, dans cette dernière épître, il dit des choses qui sont remarquables, mais il évoque à plusieurs reprises ces certitudes, cette conviction d'être avec le Seigneur. Dans un autre passage où il est encore en prison, dans Philippiens chapitre 1, verset 22, il écrit « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Paul est donc en prison. Et comme je disais tout à l'heure, donc la justice romaine, c'était assez expéditif. Et il exprime dans ce passage un doute, mais non pas sur la destination. Un doute entre c'est quoi le mieux ? Entre rester en vie et finalement être utile encore pour auprès des chrétiens ou dans l'annonce de l'évangile, ou partir et être avec le Seigneur. Mais il n'a aucun doute sur sa destination. Il sait que s'il doit partir, il sait avec qui il sera. Il sera avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de formidable. De savoir que lorsqu'on va mourir, on sera avec lui. Ça change la manière de vivre. Vous savez, quand on est prêt quelque part à mourir, on est prêt à vivre. C'est Billy Graham qui a dit ça, je crois. Mais vous voyez, ça change tout. Paul avait l'assurance que quand il mourrait, il entrerait dans le royaume. C'est là s'il le dit. Il serait avec Jésus pour toujours. Alors forcément, il y a une question qui peut venir derrière pour quelqu'un qui entend ça pour les premières fois. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil ? Est-ce que c'est automatique ? Dès qu'on meurt, on va dans la présence de Jésus ? Non ! Non. La Bible nous montre clairement qu'il y a deux destinées possibles. Il y a, je dirais, la vie, c'est un petit peu comme deux fleuves qui se séparent, deux rivières qui se séparent. Et quand on passe de l'autre côté, elles ne peuvent jamais se recroiser. Et il y en a une qui va dans la présence de Dieu, avec Jésus-Christ. Et il y en a une qui nous emmène loin de Dieu. La Bible nous montre qu'il y a deux possibilités. Soit on est loin de Dieu, ce qu'on appelle l'enfer, le mot n'y est pas dans la Bible. Mais la Bible parle d'un lieu de tourment, un lieu privé de la présence de Jésus-Christ. Et qui évoque quelque chose de terrible. Et ça, on n'en veut pas. Et puis, la Bible évoque bien sûr la présence de Dieu. Le repos, la félicité. Et la Bible nous dit que tous les hommes sont des pécheurs. Et tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous les hommes sont condamnés à cause de leurs péchés. Et il faut absolument un jour se tourner vers Jésus-Christ. Il faut reconnaître qu'on est un pécheur, dire « Seigneur, viens dans ma vie, pardonne mes péchés. Si rien ne se passe dans ma vie, je n'irai pas avec Jésus, j'irai loin de Dieu. » Il faut absolument qu'à un moment donné dans notre vie, on se tourne vers Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui croit au Christ, il a la vie. Il a la vie éternelle. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur iront avec lui. Jean 3,16, nous connaissons « Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu aime tout le monde, mais seulement celui qui croira sera sauvé. Une cinquième question, une cinquième et dernière question. Paul avait-il peur de mourir au moment de partir ? Oh, la réponse est évidente. La réponse, elle est logique par rapport à tout ce que j'ai partagé. Paul n'avait pas peur, il exprime son assurance. À plusieurs reprises, à plusieurs reprises dans toutes les épîtres, il clame son assurance, cette certitude, cette paix, quel que soit le moment. Pourtant, l'apôtre Paul, il a fait des choses terribles. Dans cette même épître, il donne quelques mots de son témoignage et il rappelle que lui, autrefois, ça a été un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur. Il n'a pas oublié ce qu'il a été. Et c'est même remarquable parce que le blasphème fait partie de ces péchés qui n'étaient pas couverts par les sacrifices de l'ancienne alliance. Un blasphémateur, il ne pouvait pas offrir un sacrifice, il était lapidé. Il y a des péchés d'ancienne alliance qui n'étaient pas couverts par les sacrifices. Mais lui, il a su que dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il a obtenu le pardon de ses péchés. Et il en est reconnaissant, il l'exprime, et il fait cette déclaration que j'aime beaucoup. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit le moment de mon départ approche, le temps de mon départ approche. Alors c'est intéressant parce que le mot temps en grec, vous en avez deux. Vous avez le chronos, chronologique, c'est le temps qui s'écoule, le temps, les minutes, Et puis vous avez le kéros, ce sont les occasions, les moments. On dit souvent que le chronos, c'est le temps des hommes, mais le kéros, c'est le temps de Dieu. Quand par exemple il est dit racheter le temps, c'est saisissez les moments, les occasions. Et ici, c'est le kéros, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire que dans l'apôtre Paul, je le perçois comme ça, c'est-à-dire c'est le moment, l'occasion pour Dieu de me prendre. Il le voit comme une opportunité. Ça sera le temps de Dieu pour lui. C'est pas voilà, c'est il le voit vraiment comme une opportunité parce qu'il a une assurance. Il a cette conviction qu'un jour il sera avec Jésus et que Dieu est maître. Vous savez, Dieu gère nos vies, hein, et il nous prend au bon moment. On peut avoir peur de la mort quand on ne connaît pas Jésus. Même si derrière la peur de la mort, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Il y a la peur de l'éternité et ça, il faut absolument le régler. Je parlais encore récemment avec quelqu'un, mais la peur de la mort, il faut... Si c'est la peur de l'éternité, ça veut dire que tu n'es pas sauvé, il faut absolument régler ça. Si Jésus-Christ devient ton sauveur, tu auras l'assurance d'être sauvé et tu sauras qu'à n'importe quel moment tu peux partir, tu es sauvé. Normalement, derrière la peur de la mort, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir la peur de souffrir. Et là, je trouve que cette pensée que finalement c'est au temps de Dieu que je m'en vais, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui est maître, c'est lui qui est souverain, c'est lui, c'est son temps à lui. Ça me rassure. Puis bien sûr, des fois, la peur de la mort, des fois, c'est peut-être celle-là qui peut des fois nous titiller chez les chrétiens, c'est la peur de laisser les autres. Hein, c'est la peur de la séparation. Voilà, mais là aussi, je ne perds pas de vue que Dieu, il est maître. Et il sait quand est-ce qu'il faut nous prendre. C'est essentiel d'être convaincu de son salut. Dans la semaine, j'avais un entretien avec quelqu'un qui veut se faire baptiser. Et je pose toujours cette question. Est-ce que tu es sauvé? Alors, souvent, j'ai les réponses, les mauvaises réponses. J'espère. C'est mauvaise réponse, j'espère. Hein. Parce que j'ai envie d'entendre, je suis sauvé. Et la personne m'a répondu, elle m'a répondu, oui, le Seigneur, il m'a sauvé de la cocaïne et de l'alcool. Ce qui est chouette. Mais c'est pas ça. C'est dit, non, c'est pas. Je dis, c'est pas le sens de ma question. Alors, j'ai posé la question autrement. Je dis, si tu meurs, tu vas où? Et là, il m'a dit, je vais avec Jésus. Et effectivement, en grattant, j'ai bien vu qu'il y avait cette expérience de la nouvelle naissance qui était là. Elle était posée. Mais il faut avoir cette conviction. Un jour ou l'autre, il y a le grand départ. Et ça ne vient pas forcément à 95 ans. Hein, ça peut venir plus tôt, on le sait. Hein, il y a plutôt un ordre, mais des fois, l'ordre est chamboulé. On est fragile, on est vulnérable, une bactérie, un microbe, et on part plutôt que prévu ou plutôt que ce que nous, on a prévu. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir être prêt au moment du grand départ. Et pour ça, il faut avoir Jésus comme sauveur. Il faut un jour se tourner vers lui, dire Seigneur, je suis un pécheur et je te reçois comme mon sauveur. Je crois que tu m'as aimé. Je crois que tu as porté sur la croix mes péchés. Je t'accepte comme sauveur. Et à ce moment-là, Dieu dépose dans notre cœur la vie nouvelle. On expérimente la repentance et il y a cette certitude d'être sauvé et ça c'est irremplaçable. Je vous souhaite d'avoir cela et on va prier maintenant pour que vous viviez cela.